Saint, les exploités, les dominés, les hommes, les femmes, les chômeurs, les travailleurs précaires, les exploités, les étudiants, les jeunes, contre ces conditions qui reproduisent les maltraitances. Seulement en s'unissant pour imposer, pour faire valoir ses propres besoins, on pourra venir à bout d'une logique féroce, d'une logique de la rationalité du capital.
La globalisation, le néolibéralisme, c'est la forme actuelle et en perspective de la domination du système du capital, de la rationalité économique et de la rationalité de l'État. Alors nous, on la considère ni fatale, pas du tout, on non la considérons pas fatale. Il y a une petite métaphore qu'on pourrait dire aux enfants. Le vampire, il semble très fort, mais il ne peut pas se passer des gens qui vampirisent. Tandis que les filles, les hommes et les femmes qui sont vampirisés, ils pourraient très bien vivre sans les vampires.
Je vous propose de vous retirer maintenant, messieurs de la police. Vous voulez bien vous écarter et vous mettre sur le côté. Nous allons rentrer, puisque personne ne nous en empêche. Je propose que paisiblement nous entrions et vous retirez sur le côté, gentiment.
Monsieur,
comme ça, il n'y aura pas de violence.
J'attends les ordres.
Allez, bonsoir, c'est Grégor. Chaque semaine, sur l'écho des Garrigues à Montpellier, Canal Sud à Toulouse et Radio Primitive sur Reims. Grégor, une parole anarchiste communiste. Allez, bonsoir. On va faire cette émission en grande partie par rapport à l'aménagement du territoire, aux luttes contre cet aménagement du territoire. On vous avait parlé dans d'autres émissions eh bien, de ce qui se passe au Pays Basque contre la lutte par rapport au TGV, contre le TGV. Donc, on
au Pays Basque ou en Italie, d'ailleurs.
Ou en Italie, au Val Susa. Et puis, on avait parlé la semaine dernière de Notre-Dame-des-Landes. Et puis là, aujourd'hui, on va parler des luttes contre les lignes à très haute tension. Nous avons Odile au téléphone. Bonjour.
Bonjour.
Alors tu es de Caen. Oui. Ta région est concernée par ces lignes à très haute tension, à 400 000 volts. Est-ce que tu peux un peu nous dire, parler un peu de ce projet?
Oui, alors c'est pas directement la région de Caen qui est concernée, hein, c'est plutôt dans la Manche, dans la presqu'île du Cotentin. Donc la ligne, il faut savoir que la presqu'île du Cotentin, elle est déjà traversée par plusieurs lignes à haute tension. Et le nouveau projet, c'est deux lignes de 400 000 volts qui traverseraient 64 communes de 4 départements, donc le Calvados, la Manche, l'Ille-et-Vilaine et la Mayenne, hein, pour rejoindre le réseau qui existe en Mayenne.
Et ce projet, il date de combien de temps déjà?
Le projet, il date, la population, elle réside depuis 2006, donc le projet, il date en fait de l'installation, enfin de la création de l'EPR, de l'idée de faire un EPR à Flamanville, une nouvelle centrale nucléaire à forte puissance, et donc pour faire circuler toute cette électricité, l'idée c'était de faire une ligne à très haute tension.
Oui, alors en sachant que l'EPR à Flamanville, non seulement il y a du retard, mais il a un petit peu du plomb dans l'aile, puisque en pays nordique, ils ont de gros problèmes avec ce type de centrale en construction.
Oui, ben c'est vrai, du coup, la centrale nucléaire, l'EPR, c'est pas sûr qu'elle se construira. Enfin, là, elle a pris vraiment beaucoup de retard. Elle devrait déjà être ouverte depuis 2012. En 2012, elle devait être ouverte, mais elle avait déjà pris du retard. Là, ils parlent de 2016. Et en fait, ils sont pas sûrs qu'effectivement de construire cette EPR. Mais en tout cas, EDF veut quand même construire ces lignes qui a achetées parce qu'ils veulent les raccorder aussi au réseau des éoliens offshore qui sont en construction en Bretagne. Et ils pensent que ça va sécuriser l'alimentation du Grand Ouest, connu pour sa fragilité en cas de grand froid.
Oui, alors c'est là qu'on voit qu'il y a aussi des opposants aux constructions de parcs éoliens offshore ou pas. Et c'est là qu'on voit que finalement, on est toujours plus ou moins dans le même système quand même.
Oui, ben, bien sûr. Enfin, il y a des opposants à ce projet-là, comme il y a des opposants à l'EPR à Flamanville. Et c'est vrai que le fait de faire passer comme ça des lignes à haute tension sur tout le territoire, ça pose beaucoup de problèmes, quoi, de difficultés pour la population qui habite autour. C'est pour ça qu'il reste aussi.
Oui, alors je vois que avec les parcs éoliens, vous avez la chance que des projets de centrales nucléaires sous-marines soient aussi à l'étude par chez vous.
Oui, c'est plus en Bretagne visiblement, mais bon, je vais pas pouvoir en dire beaucoup.
Non,
plus,
ben, moi je découvre ça avec surprise parce que je savais pas que ça existait.
Ben écoute, c'est un des projets de la Bretagne qui existe en Bretagne. Il y a aussi une centrale à gaz de 450 mégawatts.
À Brest, je crois. Ouais.
Combien ?
À Brest, je crois. Non,
non c'est pas
oui,
vrai.
Oui, enfin, dans cette région, ouais. Je ne sais pas s'ils ont décidé le site. Il y avait quatre sites.
Ah, il y a quatre sites, ouais, d'accord.
Et donc, c'est dans la région de Brest, effectivement, où là aussi, il y aurait besoin de lignes à très haute tension pour l'électricité quoi, qui serait produite.
Est-ce que tu peux nous dire un peu comment les gens se sont mobilisés ? Sur quelle base au départ ? Et est-ce que ça a évolué depuis ?
Alors, sur quelle base ? Au départ, c'était un peu pas de THT dans mon jardin. Hein, donc, il y avait 60... donc, il y a 64 communes dans 4 départements qui sont touchés. Et donc, au départ, il y avait 35 communes depuis 2006, en fait, qui se sont mobilisés pour combattre ce projet. Elles ont fait tout un tas de recours administratifs pour que la ligne passe pas chez eux, enfin, et tout ça, qui sont tous tombés à l'eau. Il y a eu plusieurs collectifs qui s'appelaient Stop THT, donc en Ille-et-Vilaine, qui s'appelait Ille-et-Vilaine sous tension, Manche sous tension et Mayenne survoltée. Et il y avait de nombreuses associations de riverains dont tous ces... Enfin, autour de tous ces collectifs. Et bon, dès que l'enquête publique a commencé entre 2007 et 2008, il y a eu un collectif d'élus où il y avait 70% des maires concernés qui étaient défavorables au passage de la ligne sur leur territoire. Voilà, donc ils ont pris des arrêtés municipaux anti-THT et qui interdisaient la présence de pylônes à moins de 500 mètres des habitations et de 300 mètres des élevages. Mais en fait, tous les arrêtés ont été annulés par les tribunaux administratifs. Donc voilà, toutes ces démarches administratives n'ont rien donné. Et en fait, la dernière démarche qu'ils avaient faite, c'était... qui pensait contre la déclaration d'utilité publique, ils ont été aussi déboutés puisque les commissaires demandaient une étude épidémiologique pour voir quel impact sur la santé des habitants et aussi des animaux. Et en fait, il n'y a jamais eu d'étude épidémiologique sur cette question.
Oui. Et les communes qui ont donc perdu en tribunal administratif, c'est parce qu'on leur a répondu qu'en fait, ils sont pas compétents dans ce domaine et que c'est l'État, finalement, qui décide de où passent les lignes, s'il en faut ou s'il en faut pas. C'est bien ça ?
Oui, c'est ça. On leur a dit qu'ils n'étaient pas compétents, qu'ils n'avaient rien à dire.
Voilà. Donc, en fait, si je me trompe pas, ça concerne à peu près 160 km de lignes.
Oui, c'est ça, elle fait 160 km et il y a 414 pylônes, en sachant qu'un pylône, il peut faire entre 45 et 65 mètres de haut, donc c'est pas des petits pylônes, hein, on les voit de loin. Et voilà, ça fait aussi travailler beaucoup de monde, mais en fait les pylônes c'était un peu le point sensible pour RTE, puisque du coup comme il y en a tout le long du tracé, ils peuvent pas
contrôler tous les pylônes.
Ils peuvent pas mettre du monde sous chaque pylône, mais là visiblement ils ont quand même embauché une entreprise privée pour garder les pylônes. Alors, je ne sais pas trop comment ça fonctionne, parce qu'il y a eu plusieurs actions de déboulonnage qui leur font perdre du temps. Et là, il y a une entreprise privée qui a été embauchée et qui surveille les pylônes un peu de loin, j'imagine, parce qu'ils ne peuvent pas être sous chacun des pylônes. Là, ça commence juste les travaux. Hein. Ils viennent juste de faire les premières fondations des premiers pylônes. Il y en a quelques-uns qui ont commencé à être montés, mais ils sont montés au sol pour l'instant.
D'accord. Est-ce que tu peux nous dire l'évolution qu'il y a eu au niveau des communes? Parce que je crois qu'actuellement, il y a plus grand monde qui résiste.
Alors là, sur les 45 qui s'étaient beaucoup mobilisés au début, il y a 6 ans, en fait, là, il n'en reste plus que 5 de communes dans la Manche qui continuent à résister. Et les autres communes, en fait, il y a eu énormément d'argent qui a été versé par RTE pour qu'ils arrêtent de lutter. Enfin, même si c'est de l'argent, c'est pas illégal de verser de l'argent aux communes, mais l'argent qui a été versé, par exemple, ils ont proposé entre 100 000 et 500 000 euros à des villages, dont des tout petits villages, hein, dont le budget annuel il est d'environ 150 000 euros. Donc ils leur ont proposé plusieurs fois leur budget annuel, quoi. C'était difficile pour ces communes-là de dire non, et la population n'était pas forcément d'accord, enfin, pour refuser cet argent, du coup.
Mais au niveau des...
Donc, les dernières communes ont fini par céder, quoi.
D'accord. Mais au niveau des agriculteurs, ça leur enlève quand même pas mal de terre, la terre agricole.
Les agriculteurs, certains ont pu vendre du terrain, mais bon, c'est des petits chantiers, les pylônes, hein, c'est pas des gros chantiers, ça leur enlève pas énormément de terre. Par contre, RTE a largement compensé les difficultés qu'ils pouvaient avoir, pas pour cette ligne-là, mais il faut quand même savoir que le Cotentin a déjà 4 lignes du même genre, où, donc il y a déjà eu, en particulier, il y en a déjà une qui fait le même voltage que celle-là, et il y a déjà des problèmes avec les agriculteurs, et RTL les a copieusement arrosés, si on peut dire, parce que ils leur ont versé de l'argent pour moderniser leurs
exploitations.
Ouais.
Mm-hmm. Ouais. Mais alors je suppose que si y a des gens qui s'opposent aux lignes THT, c'est pas seulement parce que c'est très haut et pas joli.
Bah, c'est aussi très dangereux pour la santé. Bon, puis au départ, il y avait aussi des gens qui étaient opposés au nucléaire, mais en dehors de cette histoire de PR, c'est vrai que c'est aussi dangereux pour la santé. Hein. Ici, il n'y a pas eu d'études épidémiologiques, comme on l'a dit, puisqu'elle a été refusée, mais en Grande-Bretagne, il y en a eu une où ils disent qu'il y a eu, autour des lignes à haute tension, une augmentation des cas de leucémie et 2 fois plus de maladies neurodégénératives comme Alzheimer ou Parkinson.
Mmh.
Voilà, en France, on n'en a jamais fait puisque le lobby électronucléaire est trop fort et refuse ça, quoi.
Mmh.
Alors, ce que je voulais souligner, c'est que il y a énormément de pertes lors du transport du courant électrique, de l'ordre de 30% de la puissance. Donc ce courant électrique, on le retrouve effectivement ailleurs. Effectivement, les gens reçoivent des ondes magnétiques, entre autres, et le bétail. Et donc, tu disais que pour les agriculteurs, EDF avait payé les payes grâce, et en plus ils payent une location pour chaque pylône qui se trouve dans les champs d'un agriculteur qui sont des sources de revenus qui ne sont pas négligeables pour certains.
Oui, non, mais ils ont effectivement donné de l'argent pour... mais ils ont acheté la terre où elle posait le pylône. Je crois pas qu'elle reste aux agriculteurs.
Si, en gros, sauf en cas de contestation, mais en gros, ils payent chaque année une redevance qui est de l'ordre de 1300 à 1400 euros par pylône.
Oui.
Ah, maintenant... Est-ce que tu peux nous dire un peu là où en est la lutte? Parce que je crois que depuis ces derniers temps, il y a eu dans votre coin tout de même une mobilisation à Valognes. Il y a eu le fait que actuellement il y a des résistances contre le démarrage de ces travaux qui, tu l'as dit tout à l'heure, ont commencé, mais ont commencé petitement. Est-ce que tu peux nous dire un peu où c'en est, quoi, les dernières évolutions?
Oui, alors au niveau de la lutte, il y avait eu une manifestation à Mortain qui avait rassemblé pas mal de monde en 2008, et depuis là s'est relancé en fait depuis que les chantiers commencent effectivement, et les actions qu'il y a eu, c'est toutes les semaines quasiment il y a des actions de déboulonnage, il y a pas mal d'interventions aussi pour autour des chantiers pour essayer de défaire ce qui se construit, il y a des choses qui tombent en panne bizarrement et tout ça. Et puis il y a toute une lutte autour du chef Rennes, mais si vous voulez je peux vous passer Lionel qui lui est allé aux dernières luttes et qui donc aux dernières occupations et qui pourra vous en parler plus.
Bah écoute, on te remercie bien, hein.
Ouais.
Puis on va parler un peu de chef Rennes, effectivement.
Oui, mais d'accord.
Ok.
Au revoir.
Allez, merci, hein.
Allô?
Allô, Lionel.
Oui.
Oui, alors raconte-nous, parce que je pense que tu y vas de temps en temps là-bas. Et...
j'y vais quand il y a des appels à solidarité. Je suis pas un membre actif, mais je réponds toujours à des solidarités. Effectivement, le noyau le plus centralisé dans la résistance, dans la Manche, c'est autour du chef Rennes, parce qu'il y a plusieurs collectifs comme ça un peu dispatchés. Y compris dans la Manche, et donc il y a Percy sous tension, dans la Mayenne il y en a un autre, dans l'Ille-et-Vilaine, ainsi de suite. Donc là c'est autour du chef Rennes, mais pourquoi c'est devenu autour du chef Rennes? Parce que le maire, si tu veux, reste parmi les derniers sur la quarantaine qu'il y avait au début, ou je ne sais trop combien, il en restait plus que 5 dernièrement, et là c'est un des derniers qui refuse systématiquement et catégoriquement Céline qui passe sur sa commune, et en plus sur ses terres à lui, parce que les deux sont associés, quoi. Voilà. Et donc le chef Rennes a pris une ampleur, puisque ce maire depuis Valognes, avec la résistance en tout cas symbolique contre les déchets nucléaires, a relancé une nouvelle dynamique, a relancé une nouvelle façon de réagir, puisque Fukushima était passé quand même depuis peu. Et ce qui fait qu'est venu s'agréger avec les populations locales de nouvelles solidarités qui peuvent venir soit de l'Ille-et-Vilaine qui est avec Rennes autour à 120 bornes, soit de la région et ainsi de suite. Voilà. Donc ce lieu est devenu symbolique puisque le maire lui aussi a pris conscience qu'il n'y avait plus d'autre moyen que de s'opposer maintenant directement à RTE, donc à l'État, puisqu'ils ont épuisé tous les moyens juridiques, administratifs et ainsi de suite. En constatant que RTE ne respecte pas les normes. Hein, voilà. Par exemple, il va y avoir un temps où on ne peut plus abattre d'arbres et ainsi de suite, RTE n'en a rien à foutre, ils vont continuer. Il y a des micros endroits où il y a une défense de la nature avec des animaux, avec tout comme ça. Bon, ça importe peu, il faut passer dessus, le rouleau compresseur doit passer puisque les lignes doivent se faire soit pour le PR, soit pour les futures éoliennes offshore qui vont être dans le nord du Cotentin, quoi.
Oui, alors simplement je voulais signaler ce que c'est que RTE. RTE, c'est la filiale d'EDF, qui c'est le réseau de transport d'électricité, alors qui régule tant au niveau français qu'au niveau européen, hein, c'est en fait la distribution de l'électricité, voilà.
Oui, oui, parce qu'il faut voir dans l'esprit, mais c'est que les lignes à THT qui sont aujourd'hui combattues ou qui poussent dans ce coin-là sont à remettre dans l'ensemble d'un réseau européen. Hein. C'est-à-dire que ça peut être amené pour transporter de l'électricité vers l'Espagne comme ailleurs. C'est tout un réseau européen, comme il y a un réseau d'autoroutes. Hein. La bagarre qui se mène sur ce terrain-là, c'est pas uniquement on défend nos terrains, nos petits bois ou notre joli paysage, mais c'est la continuité de l'antinucléaire avec sa forme nouvelle et sa persistance là. Hein.
Oui, je suis d'accord avec ce que tu dis et je rajouterais quand même que au-delà des petits terrains et des jolis petits bois à défendre, c'est aussi le gagne-pain de tout un tas de gens.
Alors, c'est le gagne-pain de tout un tas de gens, oui, parce que c'est la Manche, c'est très particulier, donc je ne sais pas s'il faut s'étendre là-dessus, mais c'est vrai que c'est une région qui était très rurale, avec quelques centres plutôt urbains, donc Cherbourg, avec son grand port et autres, ensuite c'est Saint-Lô, mais c'était très rural, quoi. Effectivement, l'installation du nucléaire fait que on a fait miroiter d'abord tout un tas de facilités de travail et autres pour les gens. Effectivement, il y a de l'argent qui coule à flot parce que le moindre petit village autour de la Hague pouvait obtenir qui un tennis, qui un gymnase ou une piscine. Ou, voilà, le pognon coule, notre pognon, hein, parce que il faut le voir comme ça. Donc c'est vrai qu'il y a eu cette attraction-là et ce qui a amené aussi d'ailleurs une partie de l'échec antinucléaire, c'est-à-dire que du coup un certain nombre de populations, de municipalités, de, et ainsi de suite, sont mis. Et puis du coup, on a aujourd'hui, par exemple, je crois que c'est Cazeneuve qui est le maire de Cherbourg, promu dans le staff de Hollande. Donc voilà, on a affaire à tout un schéma nucléocrate des politiques au syndicat, de la gauche à la droite, y compris les Verts.
De la gauche à la droite, y compris les Verts, oui.
Oui, oui, voilà. Donc c'est pour ça. Hein, donc c'est toutes ces options qui ont été au fil du temps utilisées, exploitées et autres. Donc les gens se sont pris là-dedans, mais qui refuseraient de bosser dans les pires conditions pour avoir du boulot, quoi. Hein, voilà, c'est ça, quoi. Après, on peut être conscient et dans l'impossibilité de dépasser ce stade-là si la lutte elle est pas collective et puis pour tout le monde, quoi. Donc c'est sur ça qu'il faut avoir aussi en jeu, quoi. Alors après, il y a tout, c'est un mouvement, hein. Les luttes, c'était un mouvement, donc il y a celui qui défend son petit truc, et puis mais il va être associé à quelqu'un qui a une autre vision plus généreuse, plus internationale, si on peut dire, voilà. Et je crois que c'est les deux qui donnent une force à une lutte, quoi.
Enfin, moi, ça fait écho à d'autres luttes dont on a parlé à l'antenne et qu'on a connues sur le terrain, sur les constructions d'autoroutes ou sur les constructions, j'y reviens, de TGV, qui détruisent tout simplement des modes de vie qui sont ce qu'ils sont, c'est-à-dire qu'ils sont valables en tant qu'ils existent et que des gens les revendiquent. Hein, tout le monde n'a pas envie de devenir ouvrier je sais pas où, ou de jouer au tennis. Il y a aussi des gens qui ont envie de vivre de leur boulot à leur rythme. Effectivement, tu précisais que dans votre région, c'est très rural, mais c'est le cas dans plein d'autres endroits, que ce soit au Pays Basque, dans le Massif Central, ou en Italie ou ailleurs. En attendant, ces gens-là, on en fait quand même peu de cas et on leur détruit tout simplement tout leur mode de vie.
Oui, 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 bien sûr. Mais ça, c'est, j'allais dire, c'est le tribut à payer sur ce qu'ils appellent, eux, le progrès, quoi, et l'avancée technologique.
Voilà,
c'est-à-dire que les populations, il y a la raison d'État, elle doit s'afficher et après, elle doit s'affirmer. Mais bon, en plus, en France, elle est hyper, hyper puissante, si tu veux, hein. Mais pour en revenir, par exemple, sur ce que je disais tout à l'heure par rapport à la Manche, là, dernièrement, je sais pas si vous êtes au courant ou vos auditeurs, mais je lisais dans la presse, en Espagne, où il y a un petit village, il a gagné le gros lot. C'est-à-dire qu'il a été choisi pour devenir le dépotoir des déchets nucléaires espagnols. Et du coup, voilà, ils sont tous dans l'euphorie. Il a le jackpot, il va créer je sais plus combien de centaines d'emplois, il reçoit des demandes de toute l'Espagne. Quand on voit l'environnement espagnol aujourd'hui, avec la grève générale depuis peu, le nombre de chômeurs et ainsi de suite, voilà aussi comment...
Je crois qu'on a un problème, là. Ça devait arriver. Bon, on va te passer peut-être une truc musical, hein, une pause musicale. Alors, je crois qu'on a été, enfin, je crois, j'en suis même sûr, on a été coupé. Je crois, Lionel, on t'a de nouveau au fil, au coup de fil, au téléphone.
Oui, allô, je suis
d'accord.
Nouveau.
Bon. Est-ce que tu peux nous conclure un peu, parce que je crois qu'il se passe des choses actuellement à Schaeffrein.
Oui, voilà, donc, les luttes continuent, bon, comme ça a été évoqué, hein, il y a des petites résistances tous les week-ends, ainsi de suite, contre ce qu'on appelle le déboulonnage. Par contre, la répression est en train de s'intensifier. Il y a une menace du procureur affichant que toute personne prise se verra avec des amendes de jusqu'à 2000 euros. Dernièrement, il y a une personne qui a été prise sur le fait et puis passe en juin en procès, et ainsi de suite. Et donc là, aujourd'hui, par exemple, ce week-end dernier, on s'attendait à ce que le petit bois du Schaeffrein, qui appartient aussi au maire et donc où l'ensemble d'une partie des gens viennent, il a été installé, c'est-à-dire que du coup, il a été plus ou moins mis avec une espèce de camp retranché, et puis avec des arbres, il y a des plateformes au-dessus où des gens s'installent pour, bon, non pas qu'on va empêcher, mais en tout cas pour freiner au maximum l'avancée, et il y a eu une première tentative ou un essai de la part des militaires d'abord, parce que c'était des camions militaires, mais après c'était des policiers qui étaient même de nuit à 5 heures du matin avec des gros projecteurs de 500 mètres de long qui éclairent tout. Et du coup, voilà, bon, là on s'attend d'un moment à un autre à ce qu'ils détruisent à tout prix cet abcès, quoi, où résident en permanence des gens. Et par contre, il y a un réseau téléphonique qui fait qu'aux moindres alertes accourent les sympathisants, les solidaires de ceci, de cela, ou du coin, en attendant que d'autres puissent venir en renfort, quoi. Donc, la situation de dimanche, là, qui hier, c'était un peu ça, quoi. C'était effectivement, dans les jours qui viennent, il faut que RTE déblaye cet abcès qui fixe un certain nombre de gens autour de la lutte ici, quoi. Parce qu'après, elle est basse, d'autant plus que RTE ou les boîtes qu'il a sous-traitées payent maintenant des vigiles pour faire des rondes tous les jours, surveiller et ainsi de suite, quoi, voilà. Parce qu'ils peuvent pas mettre un flic derrière chaque pylône, donc. Mais il y a un processus d'accélération pour casser cet abcès autour du Schaeffrein, quoi.
Oui, d'accord. Est-ce que on peut donner une adresse au niveau de pour avoir des informations au niveau des auditeurs concernant la lutte qui se passe là-bas, puisque y compris la solidarité financière s'il y a besoin à un moment donné au niveau des procès.
Il y avait des adresses. Oui, il y a une adresse sur internet qui s'appelle StopTHT, mais je ne l'ai pas en.
Ouais, ben je crois que si on tape StopTHT voilà, sur Google, on va l'avoir, quoi.
Oui, voilà. Donc, je pense que déjà, il y a StopTHT. Et après, il y a peut-être les réseaux, parce que je dis, il y a différents groupes locaux aussi, quoi. Il y a des gens de Chèvreville qui sont, non, à la THT sous les pommiers, d'autres qui ont un autre nom, et ainsi de suite. Mais il y a un lieu central qui est effectivement, en allant sur StopTHT, il doit y avoir la possibilité.
D'accord.
Mais
écoute, Tonton, merci. Hein, et puis, merci bien. Et puis, à très bientôt.
D'accord,
okay.
Merci à vous aussi.
Je te reprends hors antenne. Hein.
Oui.
Allez, on va revenir à la guerre d'Espagne et avec le neuvième épisode des Fils de la Nuit. Allez,
Antoine Jiménez, souvenir de la guerre d'Espagne, du 19 juillet 1936 au 9 février 1939, feuilleton radiophonique en 20 épisodes.
9e épisode, Perdiguera. Nous avons laissé le groupe international à Perdiguera, à 25 km environ de Saragosse. Dans un premier temps, la stratégie du comité de guerre, relayée par Lucio Ruano, a été appliquée avec succès par Louis Berthomieux. Ils ont occupé la position désignée au-dessus du hameau. Jugeant que l'ennemi est solidement retranché, le délégué général envoie alors Carpentier et Riedel chercher du matériel et des munitions supplémentaires au camp de base. Mais la pression devient trop forte. Quand Berthomieux tente d'organiser le repli, il est trop tard. Le groupe le plus avancé se retrouve encerclé par les troupes franquistes et la cavalerie marocaine. Une partie est fusillée ou se suicide. Selon les journaux français, Berthomieux se fait sauter la dynamite. La mort d'Alexandre Staradov est relatée à chaud par un autre survivant, Charles Riedel, qui écrit le 23 octobre dans Le Libertaire que cet ancien membre du détachement anarchiste ukrainien de 1917 était venu en Espagne prêter son concours de combattant aguerri. Après avoir épuisé ses munitions, il lança les 3 grenades qu'il possédait et tomba. Pour le reste du groupe, réfugié dans une grange, quand le jour se lève en ce 16 octobre, la situation est désespérée.
Plus personne dès lors ne parla de se rendre. Nous étions tous convaincus que de toute façon nous étions perdus. Il ne nous ferait pas quartier. L'homme est un animal grégaire, et dans certaines situations, la majorité des individus reconnaît la nécessité de se laisser diriger par celui ou ceux qu'elle croit les plus qualifiés pour trouver la solution à ses problèmes. Cartagena, Georges, La Caillé et moi formions un quadriumvirat constamment assailli de questions par le restant de la garnison assiégée. Cartagena était un Espagnol, originaire de la ville du même nom. Grand, maigre, aussi bronzé qu'un gitan, les yeux très clairs, il était taciturne. Il agissait d'abord et expliquait ensuite. Il était toujours partisan des solutions radicales et irréversibles. Personne ne savait rien sur son passé, sauf qu'il avait dû vivre longtemps en France, car il en parlait la langue parfaitement. Il devait avoir une 40aine d'années. Georges était un ami. Il était français, parisien, très cultivé, gai, insouciant, et aimant raconter des histoires drôles. Ses parents, disait-il, étaient des voleurs professionnels, reconnus et protégés par le gouvernement, en échange d'une dîme qu'il payait à ce dernier. Il était en réalité fils de commerçant. La Caillé était quant à lui d'un tempérament contraire à celui de son compatriote. Espagnol, né à Barcelone, il n'avait jamais connu ses parents. Il avait été élevé dans la rue et y avait grandi, d'où son nom, La Caillé, la rue. Petit, 1m45 ou 1m50, la rue portait bien son nom, parfois bruyant, parfois silencieux et sombre. Franc, il ne cachait pas sa haine ou son mépris pour tout ce qui se courbe ou s'agenouille devant une image sacrée de n'importe quelle religion. Pour lui, tous les maux de la terre venaient des curés, des moines, pasteurs ou rabbins, qui profitaient de l'ignorance et de l'innocence des peuples pour vivre dans le stupre et l'orgie. Je l'ai souvent entendu raconter sa vie ou des anecdotes. Lorsque dans une discussion, l'un de nous défendait le droit de croire en n'importe quelle religion, si l'on en sentait le besoin. Il éclatait. Sa voix montait, froide, incisive.
« Oui, je m'en fous. Si vous voulez croire, croyez. Mais sans curé, sans moine, sans pasteur et sans rabbin. Car vous ne savez pas ce qu'ils cachent derrière leur façon honteuse et leur sourire bienveillant. Moi, si. »
Élevé par on ne sait qui, il se souvenait d'avoir mendié dans les rues de la ville quand il était tout petit. Mendiant et cireur avaient été ses premiers métiers. Devenu un peu plus âgé, il voulut apprendre à lire et à écrire. Il s'exerça à tracer les lettres en prenant pour modèle les pages de journaux qui traînaient dans la rue, et ayant pour crayon un morceau de charbon pour cailler le trottoir. Un soir, le curé de sa paroisse le surprit, recopiant une page sur le mur de l'église, et lui proposa de lui apprendre à lire et à écrire. Il accepta, heureux de voir son rêve se réaliser. Il avait alors une quinzaine d'années, mais comme il était petit, personne ne lui donnait son âge. Le prêtre l'invita au presbytère, le fit manger, boire, en un mot il le mit en confiance. Il lui donna aussi des leçons. Tout alla bien pendant quelques jours. Le petit José Lacaille était aux anges. Un soir, après la leçon, son maître l'invita à passer la soirée chez lui, pour lui tenir compagnie, car sa Célestine était obligée de s'absenter. Après le départ de la bonne, le saint homme sentit le besoin de prendre un bain, et suggéra à José d'en faire autant. Le petit ne se méfia pas. Un curé, c'est chaste. Le représentant de Dieu sur terre ne peut pas être un vicieux. Il se déshabilla et rentra dans la petite pièce où une douche était installée. L'homme de Dieu y pénétra avec lui pour l'aider à se savonner. Avec le prétexte du savonnage, il palpa, caressa tout son corps, des mollets aux fesses, son dos, son ventre, sa poitrine. Il savonna son sexe en faisant jaillir le gland du prépuce. José n'aimait pas du tout cela, mais n'osait rien dire. Une fois propre comme un sou neuf, son amphitryon lui passa le bras autour des épaules et le guida vers la chambre, tout en lui parlant du plaisir qu'il avait d'avoir un ami si gentil et si jeune, et en plus intelligent comme lui. C'est dans la chambre que les choses se gâtèrent. Le curé commença à l'embrasser, à passer sa main de la nuque aux fesses de Rosé, qui, le premier instant de surprise passé, se dégagea, saisit une lampe à pétrole qui était sur la table de chevet et la lui cassa sur le crâne. Puis il s'enfuit, après avoir enfilé son froc. Il quitta Barcelone sans prévenir personne, même pas Angelita, une petite fille, son amie de toujours, plus âgée que lui d'un ou deux ans. 3 ans s'étaient écoulés lorsqu'il revint dans sa ville natale. Il rechercha son amie. Bien sûr, il ne croyait pas trop la trouver encore libre. Il espérait qu'elle serait heureuse avec son mari, et lui-même serait content de son bonheur. Si elle était libre, si elle n'était pas fiancée, alors il lui demanderait d'être sa compagne. Il la retrouva un soir, au Barrio Chino, devant la Criolla. Le rouge aux lèvres, du noir aux yeux, elle faisait le tapin. J'entends encore sa voix trembler, lorsqu'il disait en serrant les poings, et la voix pleine de sanglots.
« Si elle m'avait dit que ce métier lui plaisait, qu'elle le faisait de sa propre volonté, je n'aurais rien dit, et je lui aurais proposé de venir avec moi, de vivre avec moi, de l'argent que je gagnais en travaillant. Mais Angelita avait un chulo qui la battait quand elle ne gagnait pas assez, et qui l'avait obligée à force de coups et de menaces à se prostituer. Je suis parti, la laissant à son travail, et je me suis planqué. J'ai attendu presque toute la nuit. Puis il est arrivé, l'a prise par le bras, comme si elle était sa propriété depuis toujours. Je suis sorti de ma planque et je me suis approché. J'ai demandé à Angelita s'il était son homme. Elle a répondu « Oui, Rosé. » Ma Navarra est entrée dans son cœur toute seule. Il n'a pas dit un mot. Il est resté un moment droit, les yeux grands ouverts, puis il est tombé la face contre terre. Voilà pourquoi je hais les prêtres, pourquoi je me bats contre les capitalistes. Parce que les prêtres et les capitalistes sont des macros du peuple. Ils nous obligent à travailler pour eux, comme les souteneurs forcent les filles à se prostituer, par la force des coups et des menaces, par la misère qu'ils entretiennent dans le monde ouvrier.
Voilà ce que je sais et me souviens de mes 3 compagnons. Nous étions les plus anciens du groupe à se trouver là. Cartagena était le plus écouté de tous. Étant le plus décidé, son opinion, exposée en termes concis, était en général acceptée de tous. Lacaille, Georges et moi étions partisans de faire une sortie pour essayer de nous dégager de ce guépier. C'est alors qu'il nous dit d'attendre, car lorsque le combat avait commencé, il avait vu 2 ou 3 des nôtres courir vers nos lignes. Il espérait que peut-être des renforts arriveraient. La matinée passa, et rien n'apparut à l'horizon. Nous étions complètement cernés. Nous avions vu les fascistes prendre position pour nous couper la route de la Sierra. à 100 ou 150 mètres de la grange, commençait un champ de blé presque plat, qui s'étendait jusqu'au pied de Monte Oscuro. Nous étions séparés de la plaine par des tas de gerbes de blé. Nous avions bien essayé d'empêcher l'encerclement complet, absolu, mais les munitions commençaient à manquer. Nous ne tirions plus qu'à coup sûr. Ils essayaient de nous faire gaspiller les cartouches avec des leurres, chapeaux, bérets tendus au bout des fusils. Mais nous les laissions faire, pour ne tirer que lorsque nous étions certains que la tête se trouvait dessous. Ce fut vers 11 heures qu'ayant perdu tout espoir d'une attaque des républicains pour nous aider, nous nous décidâmes à en finir. La Caille, énervée par l'attente, comme nous tous, nous dit à peu près ceci.
« Ils ne nous attaqueront que cette nuit. Ils espèrent pouvoir s'approcher assez près pour mettre le feu. C'est ce que je ferais si j'étais à leur place. Et nous, que faisons-nous? Nous attendons qu'ils viennent nous chercher et nous fassent griller? Moi, mort pour mort, je préfère mourir en tuant. On sort, et même si on est tous tués, on aura la satisfaction d'en emmener quelques-uns avec nous. »
Nous exposâmes aux copains notre décision. Tous acceptèrent de sortir. De toute façon, nous étions faits comme des rats. Parmi les blessés, quelqu'un nous fit une proposition. Ceux qui ne pouvant ni courir ni marcher sont donc obligés de rester, peuvent, par les meurtrières du rez-de-chaussée, empêcher que toute la puissance des feux ne converge vers ceux qui sortent. Il nous suffisait de les aider à les mettre en position de tir. Les blessés graves, les mourants, nous suppliaient de ne pas les laisser tomber vivants aux mains de l'ennemi. Trois ou quatre, qui avaient gardé leurs armes, se suicidèrent. Les autres furent achevés au couteau par Cartagena. Moi, je regardais tout cela comme si je n'étais pas concerné. J'étais le spectateur indifférent d'une tragédie absurde qui se serait déroulée hors du temps, et où il y aurait eu un acteur qui me ressemblait comme un frère. Avec une ficelle que j'avais ramassée dans un coin, j'avais attaché un de mes pistolets à mon cou, en me faisant un collier qui descendait jusqu'au fourreau. L'autre était retenu par une boucle passée à mon poignet. Ainsi paré, il ne risquait pas, pendant que je courais en lançant des grenades, de tomber. Tout était prêt. Cartagena en espagnol, moi en italien, Georges en français, expliquâmes notre plan. Nous devions nous diviser en deux groupes. Un de chaque côté de la porte. Nous l'ouvrons et nous nous élançons vers la Sierra en faisant feu de toutes nos armes, chaque groupe de son côté, pendant que ceux qui restaient nous appuyaient avec les fusils mitrailleurs. Nous sommes virtuellement, si nous restons là, tous morts. Si nous nous rendons, dans la meilleure des hypothèses, nous serons fusillés. Donc notre intérêt est nous faire tuer les armes à la main. L'exemple est sous nos yeux. Les corps de Mimosa et d'Augusta prouvaient que rien ni personne ne trouverait grâce auprès d'eux. Notre petit speech terminé, tout le monde se plaça devant la porte. Cartagena et Georges d'un côté, la Caillée de l'autre, en tête. Moi, je devais prendre ma place près de Rosé. Mais au dernier moment, pendant quelques secondes, il me fut impossible de bouger. La peur? Peut-être. Ce que je sais, c'est que subitement, le souvenir de ma mère, décédée depuis 8 ans environ, surgit du tréfonds de ma mémoire. Et que pendant ce court laps de temps, j'ai cru l'avoir devant moi. Puis tout s'effaça, et je pris ma place au milieu de ces hommes qui allaient mourir, et qui le savaient.
On y va, en avant, vive la liberté, en avant.
Les cris avaient jailli de nos poitrines. Au même moment que la porte, repoussée avec violence, s'ouvrait sur la plaine inondée de soleil. Dire ce qui se passa dès que nous fûmes dehors est presque impossible. Lancés comme des flèches au milieu des hurlements, des explosions, en deux directions divergentes, nous pûmes nous éloigner de la grange, mais l'effet de surprise fut court. J'étais parmi les derniers à avoir franchi le seuil de notre fortin. Je courais, et à mesure que j'avançais, je voyais les copains qui étaient devant tomber. Combien de fois me suis-je laissé choir par terre pour recharger mes armes? Je l'ignore. Je me souviens d'avoir vu Cartagena s'arrêter, porter son pistolet à la tempe et s'écrouler. Des hommes se battaient au corps à corps et leurs armes brillaient au soleil. Je vis Georges bondir par-dessus un tas de gerbes de blé et une baïonnette jaillir de derrière et s'enfoncer dans sa poitrine. J'ai tiré sur l'homme, qui à genoux tenait le fusil. Ils sont tombés tous les deux, l'un sur l'autre. Comme je passais, je sentais les balles siffler près de moi, à mes oreilles. Devant moi la plaine, et au loin la caillée. Son fusil mitrailleur serré sous son bras fonce vers la vie. Le fusil lui échappe des mains. Il tombe. Des petits nuages de poussière s'élèvent autour de moi comme les premières gouttes de pluie en soulèvent en tombant sur une route poussiéreuse en été. Il y a une mitrailleuse sur le clocher. Je commence à courir en zigzag. Rosé à plat ventre pointe son arme et tire. Je vois tressauter le canon au rythme des rafales qu'il éjecte. On ne me vise plus. La pluie tombe drue tout près de lui. Il me crie
« Mal t'es pris ça, Antonio, mal t'es pris ça !»
Il se redresse sur ses mains, comme s'il voulait se lever. Il retombe et reste immobile, une main crispée sur son fusil. Je continuais ma course, et je reçus un coup de poing dans les reins. Je ne voyais plus les nuages de poussière se lever devant moi, mais j'entendais encore loin derrière moi les rafales rageuses de la mitrailleuse. Enfin, elle s'est tue. Moi, je me suis écroulé, j'ai roulé par terre, et suis tombé dans un abîme sans fond. Je me suis réveillé au fond d'un barranco. J'avais glissé et perdu connaissance en dévalant les parois de ce fossé naturel. Il faisait encore jour. Deux cavaliers en patrouille m'ont ramassé au bord d'un sentier et reconduit à Farlette. J'étais complètement épuisé. Après avoir satisfait la curiosité naturelle des copains réunis dans le PC, et avoir ingurgité pas mal de victuailles, j'ai demandé à Madeleine de prendre un paquet de cigarettes dans la cartouchière du ceinturon que j'avais déposé à l'écart, car la poche de mon blouson était vide. La boîte à chargeur me servait de réserve pour mon service de fumeur. Une exclamation en sa langue maternelle nous fit tourner la tête. Elle regardait le cuir comme si elle n'en avait jamais vu. Qu'y a-t-il ?
Mais regardez !
Et ce disant, elle vida le contenu sur la table. Sur la face extérieure de la boîte, il y avait un trou. Le paquet de cigarettes était traversé par un morceau de cuivre. Madeleine, s'apercevant que ma manche gauche était trouée, me fit lever pour mieux m'examiner avec les autres. Chance, malchance, qui peut répondre à cette question ? Même pas moi. Si vivre est une chance, alors ce jour-là j'ai été chanceux. Trois balles m'avaient frôlé de si près qu'elles avaient percé mon blouson en deux endroits, la manche et le côté, la troisième le bas de mon pantalon. Toutes trois du côté gauche. J'ai gardé le petit cône de cuivre bourré de plomb pendant longtemps sur moi, comme un porte-bonheur. Le lendemain, on m'apprit que je n'étais pas le seul rescapé de ce massacre. Ben Salah, un Algérien, et Manuel sont arrivés dans la nuit. Le sang-froid, l'art du camouflage du fils du Maghreb et la connaissance du terrain de Manuel leur ont permis d'échapper au regard des fascistes, de s'éloigner et de rejoindre nos lignes une fois la nuit tombée. Ils avaient de leur cachette vu la fin de Berthomieu, de Marthe et de beaucoup d'autres. Leurs dires confirmèrent ce que le copain allemand nous avait dit avant de mourir. À Farlette, personne ne savait pourquoi les centuries n'avaient pas bougé de leur position. Une rapide enquête auprès des différents secteurs intéressés nous apprit qu'aucun ordre ne leur était parvenu. Les responsables croyaient que nous opérions un simple coup de main, comme d'habitude. Au QG de Durruti, il nous fut impossible de trouver Ruano, le responsable de l'application du plan. Buenaventura ignorait tout des origines de l'affaire qui avait coûté la vie à 120 d'entre nous. Ce jour-là, je fus témoin d'un fait qui me fit découvrir un aspect nouveau pour moi du caractère de Gori. Un commando de 3 ou 4 paysans avait été surpris, la nuit précédente, en train de s'approcher de la tente où Durruti reposait, pour le trucider. Il venait de la Sierra d'Alcubierre et était des pauvres bergers, fanatisés par les curés. Vieillis avant l'âge par le travail et les privations, ils attendaient résignés l'exécution de la sentence qui les avait condamnés à mort. Le peloton se plaça en face, à une dizaine de mètres des condamnés.
Anjou,
je vis les pauvres R faire le signe de la croix.
Feu!
Les 12 fusils ne firent qu'une seule détonation. Tous les condamnés tombèrent, sauf un, qui resta debout en regardant le peloton avec des yeux écarquillés par la surprise. Il devait se dire que les révolutionnaires étaient de bien mauvais tireurs pour le manquer à cette distance avec un fusil. Moi aussi j'étais stupéfait. Je m'attendais à entendre une seconde décharge et à voir un des hommes s'approcher pour leur porter le coup de grâce. Au lieu de ça, je vis deux types, porteurs de seaux pleins d'eau, qu'ils vidèrent consciencieusement sur les prétendus morts. Les fusils étaient chargés de cartouches à blanc. Gorlis les laissa repartir, après leur avoir dit que nous faisions la guerre à l'ignorance et à l'esclavage, et non aux pauvres bougres qui ne comprenaient pas où était la justice et la liberté. Le groupe international de la colonne d'Urruti avait reçu un coup mortel à Perdiguera, mais il n'était pas complètement fini. Un ex-colonel de l'armée italienne vint remplacer Bertomieu. On l'appelait Pablo. Je n'ai jamais su son vrai nom, ni les raisons profondes qu'il avait fait choir parmi les révolutionnaires. Il était assez âgé. Officier de la guerre 14-18, il n'était pas ce qu'aujourd'hui on appellerait un baroudeur ou un chef de guérilla, comme Louis. Avec lui, nous commençâmes à faire la vie de tranchée ou les attaques de masse comme troupes de choc. Pablo était accompagné partout où il allait par une jeune femme qui se faisait appeler Louise. Mince, un minois chiffonné, assez agréable à regarder, elle avait une voix douce et musicale qui enchantait l'oreille. Comme elle était exactement le contraire de Madeleine, plutôt petite et boulotte, j'en tombais amoureux. Tant et si bien que Pablo s'en aperçut, et pour m'éloigner de sa gouvernante, m'octroya quelques jours de permission à Barcelone.
Sur les 240 miliciens du groupe international engagés dans cette bataille, 170 ont péri, dont une quinzaine de Français. Ce massacre a beaucoup marqué certains survivants, d'autant plus qu'il semble bien qu'il soit imputable, au minimum, à une erreur de manœuvre militaire. Voyons comment l'événement a été présenté. Abel Paz, ce jeune libertaire qui milite à Barcelone en 1936, rédigera une biographie de Durruti. Pour décrire la bataille, il s'appuie sur des témoins directs et sur un document de la CNT, diffusé en 1938, qui représente en quelque sorte la version officielle anarchiste. Voici un extrait de l'édition française de 1993 de cette biographie.
Durruti put réunir assez de forces pour secourir les positions menacées. Les internationaux se voyaient pratiquement encerclés. On luttait au corps à corps, de tranchée en tranchée. La venue du renfort changea le sort du combat. L'ennemi dut se retirer, ce dont Durruti profita pour tirer les internationaux de l'encerclement et libérer deux auto-blindés. La contre-offensive donna d'excellents résultats.
En somme, ce sont les internationaux qui auraient mal manœuvré et le reste des centuries qui les auraient tirés d'affaire. Le délégué général de la colonne Durruti aurait bien contrôlé la situation. Cette vision des événements exclut toute éventuelle erreur du commandement et relativise l'ampleur du désastre. Elle ne correspond pas au récit de Jiménez.
Selon le témoignage non publié de Charles Carpentier, survivant de cette tragédie, après avoir lancé dans la journée du 15 octobre une offensive sur une partie du front, Durruti avait donné l'ordre aux centuries de se retirer et de revenir à leurs positions antérieures. Cependant, l'estafette expédiée auprès des internationaux, pour les prévenir du repli général, s'était égarée dans la nature et n'arriva que bien après la bataille. Les Marocains n'avaient eu aucun mal à encercler le groupe, soudain dégarni sur ses flancs gauche et droit. Toujours selon Carpentier, après le massacre, certains des membres du groupe international, fous de rage, persuadés qu'on les avait envoyés au casse-pipe et laissés choir, voulait débouler au quartier général de la colonne et tirer dans le tas. Oui, il s'estimait trahi. Peut-être certains ont-ils considéré que Ruano, membre du comité de guerre, était le responsable direct de ce gâchis sanglant. Riedel et Carpentier eurent toutes les peines du monde à convaincre leurs camarades que tout cela était la faute à pas de chance. Et ils durent user de l'autorité que leur conférait leur qualité de fondateur du groupe pour les empêcher de commettre un acte de vengeance. Voilà un récit qui se rapproche davantage de celui de Jiménez. Les accusations que Jiménez porte à l'égard du comité de guerre de la colonne, et plus particulièrement à l'encontre de Lucio Ruano, sont très graves. Pour lui, comme pour d'autres sans doute, même si le plan d'attaque avait été mauvais, il fallait au moins venir les secourir. Ensuite, s'il est vrai que le QG s'est défaussé quant aux besoins légitimes d'explication de la part des miliciens, la thèse de la trahison peut trouver sa place. Reste à savoir pourquoi elle pèse sur Lucio Ruano. Nous y reviendrons.
Il faut également souligner que les milices anarchistes, peu aguerries dans les premiers mois du conflit, commettent des erreurs tactiques, et que la conduite de cette guerre souffre aussi de problèmes de communication et de coordination. Selon un rapport établi à chaud par les rescapés, l'entrée le 15 octobre soir dans les abords du hameau de Perdiguera fut très facile, l'ennemi laissant même du matériel militaire pour faire croire qu'il se retirait. Il s'agissait sans doute d'un piège. Le récit d'Antonio Jiménez est intense, car il nous confronte de manière rapprochée à des situations de combat terribles et complexes. On notera qu'il ne cite pas la présence des troupes marocaines, attestée par les autres récits, et qu'il ne profite pas des atrocités commises sur ses amis Mimosa et Augusta pour sombrer dans des propos racistes, ce que d'autres se sont autorisés à faire.
Les étudiants, les jeunes, contre ces conditions qui reproduisent les mains terribles. Seulement en s'unissant pour imposer, pour faire valoir ses propres besoins, on pourra venir à bout d'une logique féroce, d'une logique de la rationalité du capital. La globalisation, le néolibéralisme, c'est la forme actuelle et en perspective et la domination du système du capital, et la rationalité économique de la rationalité de l'État. Alors nous, on la considère ni fatale, pas du tout, on non la considère pas fatale. Il y a une petite métaphore qu'on pourrait dire aux enfants. Le vampire, il semble très fort, mais il ne peut pas se passer des gens qui vampirisent. Tandis que les filles, les hommes et les femmes qui sont vampirisés, ils pourraient très bien vivre sans les vampires.
Moi, je vous propose de vous retirer maintenant, messieurs de la police. Vous voulez bien vous écarter et vous mettre sur le côté. S'il vous plaît, nous allons rentrer, puisque personne ne nous en empêche. Je propose que paisiblement nous entrions. Et vous retirez sur le côté, gentiment. Monsieur, comme ça, il n'y aura pas de violence, en tout cas pas de
inconvénient. J'attends les ordres.
Allez, c'était les Rigors chaque semaine sur les Codes Garrigues Montpellier, Canal Sud à Toulouse et puis Radio Primitive sur Reims. Les Rigors, une parole anarchiste communiste que vous pouvez d'ailleurs retrouver sur les sites Le Chat Noir 51 et aussi Libertaire. N'oublions pas que le numéro d'avril de Courant Alternatif vient de sortir et qu'il y a entre autres un article